Je retourne dans la rue pour faire un autre sondage. Cette fois-ci, je demande aux passants ce que ça veut dire qu'être mondain. Le premier qui accepte de répondre dit « Eh bien, pour moi, ce sont les divertissements que vous choisissez et les endroits où vous allez. En gros, c'est votre style de vie. » Un autre dit « À mon avis, ça dépend des gens que vous fréquentez. Prenez les bobos, les bourgeois bohèmes. Eh bien, je crois que malgré le nom qu'ils se donnent, ils sont mondains. » Et d'autres disent « C'est la façon dont vous vous habillez. Ce sont les gens qui ne parlent que de partir en week-end ou en vacances. Ce sont ceux qui ne songent qu'à gagner de l'argent. Ce sont les gens qui, le dimanche, au lieu d'aller à l'église, vont au bistrot ou à la chasse, etc. » Qui a raison? La réponse n'est pas simple, mais le quatrième épître de Jacques nous donne quelques points de repère. On y trouve les mots « conflit, querelle, égoïsme, convoitise, meurtre, jalousie, haine, orgueil, péché, cœur partagé, jugement, critique » qui maculent ce chapitre comme des taches d'encre sur une feuille blanche. Je commence à lire ce chapitre 4. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Verset 1. Le chapitre précédent s'est terminé en douceur avec ces paroles. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. C'était comme un retour de croisière sur une mer calme et tranquille. Mais maintenant, une terrible tempête s'est levée, le vent souffle en rafale, et des vagues furieuses battent le navire sans relâche. Le contraste est saisissant. Ici, Jacques s'attaque de front à un comportement odieux de la part de certains de ses lecteurs, et il est tellement indigné qu'il n'emploie pas l'expression « mes frères » qu'il a utilisée précédemment chaque fois qu'il changeait de sujet. Le mot pour « lutte » a donné « polémique » en français. Il veut dire « dispute, combat ou guerre ». Le mot pour « querelle » décrit une lutte spécifique. Ici, Jacques fait référence à des relations conflictuelles entre différentes personnes, altercations violentes qui lui ont probablement été rapportées. On sait déjà que les Juifs qui étaient encore ancrés dans le système lévitique de l'Ancienne Alliance persécutaient leurs frères qui avaient placé leur foi en Jésus-Christ. Mais ici, le problème est plutôt entre croyants ou sympathisants. Dans une de ses épîtres, l'apôtre Paul écrit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Je crains de découvrir de la discorde, des jalousies, de la colère, des rivalités, des médisances, des commérages, de l'orgueil et des désordres. Que les non-croyants se disputent, c'est compréhensible. Mais les disciples de Jésus-Christ, c'est inadmissible. » Jacques touche du doigt le vrai problème quand il demande « N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous ?» On peut presque toujours retracer un conflit entre personnes au fait que chacune veut défendre son beefsteak, ses intérêts personnels et campe sur ses positions. Le mot pour « désir égoïste » a donné « hédoniste » en français. C'est chercher à satisfaire ses désirs sensuels et charnels et assouvir ses passions. Dans le Nouveau Testament, ce mot a toujours une connotation négative. Contrairement à une idée répandue, l'humanité ne va pas aller en s'améliorant. L'apôtre Paul soulève un coin du voile sur le futur caractère de l'humanité quand il écrit « Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateur, incapable de se maîtriser, cruel, ennemi du bien, emporté par leurs passions et enflé d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. L'apôtre dit aussi comment les vrais croyants doivent se conduire et la différence est remarquable. Il écrit « Dieu veut que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Tout le monde sait que fumer nuit à la santé et que le sexe à gogo, surtout sans protection, conduit à des tas de problèmes et des maladies. Mais beaucoup de gens ne veulent rien savoir et au lieu de réfléchir avec leur tête, ils se laissent aller à leur passion du moment et à leur convoitise mondaine parce qu'ils en sont esclaves. Et même, s'ils se sentent repris par leur conscience et éprouvent un malaise, un sentiment de culpabilité, ce n'est pas suffisant pour les empêcher de continuer leur pratique condamnable. Un exemple de la toute-puissance d'une passion dépravée est illustré par la conduite des hommes de Sodome. Ayant appris que des étrangers étaient en visite chez Lot, ils ont essayé de forcer la porte pour violer tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Rien que ça. Mais la suite est encore plus surprenante. Les visiteurs, qui étaient des anges, ont frappé d'aveuglement les hommes de Sodome afin qu'ils ne trouvent pas la porte. Eh bien, tels des zombies, les morts vivants des films d'horreur, perdre la vue ne les a pas fait renoncer à leur sinistre projet. Je continue le texte de Jacques. « Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. » Verset 2. La convoitise est un désir tyrannique, difficile à maîtriser. Si je veux quelque chose à tout prix, j'entrerai en conflit avec tout ce qui se mettra en travers de ma route. Et une passion frustrée peut conduire au meurtre ou au suicide. On trouve des exemples dans l'Ancien Testament. Un jour, le grand roi David avait une belle femme, mariée, qui s'appelait Bathsheba. Il l'a prise et mise dans son lit. Manque de chance, elle est tombée enceinte. Qu'à cela ne tienne, il a fait tuer son mari, puis l'a épousée. Le grand-père de Bathsheba s'appelait Ahithophel. D'abord conseiller de David, il a tellement été outré par cette injustice qu'il est passé dans le camp d'Absalom, fils de David, qui cherchait à renverser son père. Ahithophel avait un bon plan pour que Absalom réussisse son coup d'état. Mais quand il a compris qu'il ne serait pas écouté, il a tellement été frustré qu'il s'est suicidé. Cela dit, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à verser le sang pour se rendre coupable de meurtre. Jésus a dit « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres « Tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. » Quand Jacques dit « vous convoitez beaucoup de choses », le verbe pour convoiter veut simplement dire vouloir quelque chose, mais le contexte montre qu'il s'agit d'un mauvais désir. Par exemple, les pharisiens avaient la réputation d'hommes très pieux, mais en réalité, ils convoitaient beaucoup de choses, ils cherchaient à maintenir leur pouvoir sur le peuple tout en jouissant de son admiration. Comme Jésus a démasqué leur hypocrisie, ils ont riposté en le faisant mettre à mort par les Romains. D'ailleurs, le gouverneur Ponce Pilate avait bien compris que c'était par jalousie que les pharisiens lui avaient livré Jésus. Jacques dit encore « Vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. » Le mot pour « consumer en jalousie » a donné zèle en français. Il exprime un sentiment plus fort que vous convoitez. Quand quelqu'un est possédé d'un tel désir ardent sans recevoir satisfaction, tôt ou tard, il s'ensuit des querelles et des luttes. Tous les conflits, qu'ils soient personnels, professionnels ou nationaux, sont le résultat de désirs égoïstes insatisfaits. L'apôtre Jean les appelle la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. En famille, en société, dans le monde des affaires, en politique, dans les rapports entre syndicats et patronats, et même dans les conférences sur la paix, les relations sont conflictuelles parce que chacun cherche à tirer la couverture à lui. Par contraste, le croyant est appelé à vivre en marge de ces conflits d'ordre personnel car il a un Père céleste qui pourvoit à ses besoins. Je continue le texte. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu, ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez pour vous-même ce qui est mal, avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Versets 2 et 3. Si j'ai bien compté, dans ces deux phrases en grec, les pronoms « vous »,« vos » apparaissent 7 fois, ce qui montre que les Juifs auxquels Jacques s'adresse étaient très centrés sur eux-mêmes. Quand le croyant a un besoin, il devrait tout naturellement se tourner vers Dieu dans la prière. Mais parmi les croyants immatures juifs auxquels Jacques écrit, certains pensaient qu'ils pouvaient obtenir ce qu'ils voulaient par leurs propres efforts, par leur habileté et sagesse naturelle, et même à la force du poignet si nécessaire. Ils n'avaient pas compris qu'ils devaient invoquer Dieu et se confier en lui pour leurs besoins. D'autres priaient bien Dieu, mais sans tenir compte de sa volonté. Motivés par des aspirations égoïstes, ils cherchaient uniquement à satisfaire leur convoitise charnelle, leur pulsion primaire. Je continue le texte. « Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. » Verset 4. Jacques utilise le mot « adultère » comme métaphore. Durant toute son histoire, la caractéristique principale du peuple choisi a été son infidélité envers l'Éternel. Que ce soit les Hébreux sortis d'Égypte, les Israélites des 10 tribus du Nord ou ceux de Juda, ils avaient la très fâcheuse maladie d'abandonner Dieu et de rendre un culte aux idoles. Parce qu'ils persistaient dans ce péché, les prophètes les accusaient régulièrement de commettre un adultère spirituel. Par exemple, Jérémie écrit « Judas a bien vu que j'ai répudié Israël l'infidèle et que je lui ai donné sa lettre de divorce à cause de tous les adultères qu'elle avait commis. Mais sa sœur, Judas la perfide, n'en a ressenti aucune crainte. Au contraire, elle est allée se prostituer à son tour. » Jacques utilise le même langage que les prophètes vis-à-vis de ses lecteurs qui, je le rappelle, sont un mélange de vrais croyants, de sympathisants et d'israélites traditionalistes. Seulement, au lieu de se tourner vers les faux dieux, les Juifs du premier siècle embrassaient les valeurs mondaines de leur époque. Mais que l'idolâtrie soit grotesque, comme la dévotion à une statue de Baal, ou qu'elle soit plus subtile, comme l'amour des valeurs de ce monde, c'est une infidélité envers Dieu et donc un adultère spirituel. Cette apostasie est un comportement coupable grave. Le psalmiste écrit « Qui abandonne l'Éternel se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. » Dans les Écritures, l'accusation d'adultère ne s'applique jamais aux païens parce que les Israélites étaient le seul peuple avec qui l'Éternel avait conclu une alliance et donc le seul qui pouvait lui être infidèle. Et leur infidélité a été sans retenue. Ils ont commis des actes abominables, par exemple en offrant un culte à l'idole Baal avec les prostituées sacrées, et pire encore, en sacrifiant leurs enfants à l'idole Moloch. Le mot adultère est donc une distinction méprisable attribuée à Israël, la femme infidèle de l'Éternel. Au premier siècle, la plupart des Juifs et surtout les chefs religieux avaient abandonné l'Éternel et la loi qu'ils avaient remplacée par leur propre tradition. Pour cette raison, Jésus les appelle « peuple incrédule » et « génération méchante » et « adultère ». Littéralement, Jacques dit « adultère, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu ?» Le mot traduit par « amitié » n'est utilisé qu'ici dans le Nouveau Testament. Il décrit une affection vive et intense pour les attraits de ce monde. Le mot « ami » qui lui est apparenté désignait quelqu'un à qui on était très fortement attaché. C'est ce genre d'amitié que Jésus a décrit quand il a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». L'amitié pour le monde ne désigne évidemment pas la planète Terre, mais le système de valeurs et de mœurs égocentriques orienté vers le « moi » des civilisations humaines et qui est fondamentalement opposé à Dieu. Voilà pourquoi, dit Jacques, si quelqu'un veut être l'ami du monde, et c'est un choix conscient, il se fait l'ennemi de Dieu. Or, le croyant authentique, dit l'apôtre Paul, a reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Pour cette raison, Paul exhorte ceux qui ont cru en Jésus-Christ disant « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. » Je continue le texte. « Où pensez-vous que l'Écriture dit en vain que vers l'envie aspire l'Esprit qui habite en vous, mais il donne une grâce plus grande ?» Versets 5 et 6. En grec, cette phrase est particulièrement difficile à comprendre et donc à traduire. Que veut dire « vers l'envie aspire l'Esprit qui habite en vous » ? Comme la suite commence avec un « mais », suivi de « il donne une grâce plus grande », qui est une affirmation positive, c'est que la phrase précédente, celle qui est difficile, est une déclaration négative. « Vers l'envie aspire l'esprit qui habite en vous » veut donc dire que de nature, l'homme a en lui un esprit d'envie, envie d'être et envie d'avoir. Les deux formes classiques de l'orgueil humain et la racine du péché. Mais, heureusement pour nous, il donne une grâce plus grande, c'est-à-dire que Dieu nous accorde une grâce plus grande que notre péché inné. L'apôtre Paul écrit « Là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé ». L'interprétation que j'ai donnée semble être confirmée par la suite du texte qui est « Voici donc ce que déclare l'Écriture, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Verset 6. En effet, cette citation est construite sur le même modèle que le verset difficile, car elle reprend les deux mêmes thèmes de l'orgueil et de la grâce de Dieu. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles, est une citation du livre des Proverbes, reprise non seulement par Jacques, mais aussi par l'apôtre Pierre. Et tous deux utilisent l'ancienne version grecque. Le mot pour « s'oppose » est un terme militaire qui signifie « résister »,« lutter contre » et qui décrivait une armée parfaitement équipée pour aller combattre. C'est donc de cette même manière que Dieu est prêt à s'opposer à l'orgueil. Le mot pour « orgueilleux » veut dire « paraître au-dessus ». Il décrit quelqu'un qui se considère plus important que les autres. dans le texte de l'Ancien Testament qui mentionne sept choses que l'Éternel déteste, le sage place en tête les yeux qui regardent les autres de haut. Par contre, Dieu accorde sa grâce aux humbles, à ceux qui renoncent à posséder et à prouver qu'ils sont meilleurs que les autres et qui se soumettent humblement à Dieu. La première des béatitudes de Jésus est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », ou comme le dit si bien la Bible de Jérusalem, « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre ». Tout comme l'orgueil est à la racine du péché, l'humilité est le commencement de la justice personnelle et aussi la bonne attitude pour éviter ou tout au moins limiter les conflits relationnels. Jésus a raconté l'histoire du pharisien et du collecteur d'impôts qui sont montés au temple pour prier. Il a dit: le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis !» Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu, car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé.